aujourd'hui nous allons parler du film L'Accord, un film de Nicolas Vadimoff, bonjour, et Béatrice Guelpin.
Bonjour.
Et nous sommes également avec Marc-André Aldiman, archéologue qui travaille également dans cette région.
Bonjour.
Alors, ce film retrace les pourparlers, les négociations qui ont conduit à l'initiative de Genève qui a été dévoilée à la fin de l'année 2003, c'est juste?
Le 1er décembre 2003. Enfin, le film raconte surtout ce qui s'est passé après les pourparlers qui aboutit à l'annonce de l'initiative, c'est-à-dire l'année qui a suivi, comment est-ce qu'ils ont tenté de mettre en place cette initiative sur le terrain.
Et nous voudrions voir aujourd'hui avec vous, en tant que cinéaste, comment vous êtes parti sur cette piste et ce que vous en avez tiré maintenant, puisque dans un sens vous avez retracé l'histoire des négociations, mais maintenant vous accompagnez également toutes les discussions sur la paix et un petit peu un changement de programme par rapport au film que vous produisiez avant.
Ben, c'est-à-dire qu'on avait imaginé, on a commencé à tourner 3 semaines avant le lancement de l'initiative, c'est-à-dire la préparation de l'événement en tant que tel, qui avait suscité un énorme engouement, et on imaginait à ce moment-là que la campagne de promotion serait à la mesure de l'engouement que le lancement de l'initiative avait suscité, c'est-à-dire que les populations palestiniennes et israéliennes allaient pas forcément s'emporter et suivre totalement les promoteurs de l'initiative, mais enfin au moins qu'il y aurait débat et qu'il y aurait intérêt. Et on pensait tourner sur une période d'à peu près 2 mois et qu'il y aurait une espèce de dynamique qui s'installerait dans la région. Et force a été de constater qu'une fois que l'initiative a été lancée dans un grand remue-ménage médiatique, en tout cas en Europe et aux États-Unis aussi, sur place, ils ont été accueillis. Enfin, c'était la douche froide parce qu'ils se sont rendus compte tout à coup que même s'ils le pressentaient, mais que leur projet était en total, pas forcément de désaccord, mais en décalage absolu avec les sentiments des gens sur le terrain et avec la réalité. Donc à partir de ce moment-là, c'était une espèce de quête désespérée des personnages que nous avons choisi de suivre, c'est-à-dire qui étaient 3 Israéliens, 3 Palestiniens pour le film, qui ont tenté envers et contre tout de convaincre leur population respective du bien fondé de leur initiative. Et cette quête désespérée nous semblait, à ce moment-là, d'un point de vue même dramaturgique, d'un point de vue des enjeux forts et intéressants. Et donc c'est ça finalement le corps du film. Comment combattre, comment s'engager quand on sait que, je ne dirais pas que c'est peine perdue, mais qu'on va devoir combattre contre des, on peut dire des moulins si on est très pessimiste, on peut dire on pense pas que c'est un combat qui est vain, mais on pense que le chemin est difficile et c'est celui qu'on a voulu raconter.
Mais avant d'aller sur le terrain, vous avez découvert l'initiative de quelle manière? C'est deux mois auparavant, enfin avant la déclaration finale. Est-ce que vous faisiez partie des personnes qui étaient dans le secret ou est-ce que vous avez découvert?
On a été, je dirais, très sincèrement, on était dans le semi-secret. On l'a appris, je pense, un peu avant qu'elle soit rendue publique, quand même avant, mais on l'a pas appris lorsqu'elle était totalement secrète, c'est-à-dire les 2 années qui ont précédé le lancement de l'initiative. Ils ont négocié pendant 2 ans. Et le film parle pas de ça. Le film part à partir du moment où l'accord est signé. Hein, le film parle vraiment de comment est-ce qu'ils ont tenté de convaincre les gens qu'il fallait suivre cette voie. Maintenant, ce qui s'est passé avant, par contre, ça a fortement conditionné notre regard à nous, parce que si on était en période de préparation, on a filmé un peu. Les 3 semaines précédant le lancement de l'initiative, on a surtout filmé les préparatifs. Et ça nous a mis dans une condition, psychologiquement, on était très favorable et très... je dirais pas qu'on a perdu notre recul, mais enfin, ça a un peu ébranlé, je pense, notre sens des distances. Il y avait une telle dynamique, une telle énergie qui se dégageait des discussions préparatoires qu'on a eu tendance, nous, à y croire très fort aussi. Ce qui était finalement bien pour le film, parce qu'on est parti en Palestine et en Israël, avec beaucoup d'empathie pour nos personnages, et donc en y croyant aussi, nous, beaucoup. Donc après, la gifle a aussi été pour nous à la hauteur de nos espérances précédentes.
Alors justement, cette gifle, vous avez déclaré récemment dans une conférence avec Voltaire, que vous étiez laissé prendre par cette dynamique en positive, en ajoutant même que vous étiez un petit peu naïf. Est-ce que cela signifie qu'il y a une déception?
Oui, pire qu'une déception, c'était une baffe totale, parce que on ne sait encore pas très bien pourquoi, Béatrice et moi, on se pose souvent la question, comment est-ce que, en ayant été plusieurs fois, beaucoup de fois sur le terrain, hein, des deux côtés, autant pour elle que pour moi, moi pour des films et Béatrice pour des articles de presse écrite, comment est-ce qu'en connaissant la situation quand même assez bien, on a pu se laisser embarquer comme ça? Alors une des clés réside dans le fait qu'on s'est rencontrés, Béatrice et moi, en 98, à l'occasion d'un reportage qu'elle faisait pour l'Hebdo, où elle me suivait, et je rencontrais des cinéastes palestiniens. Puis on parlait de la relation entre culture et conflit. Et ça a été l'occasion pour nous de déambuler dans les territoires occupés, à l'occasion de la fin du processus d'Oslo. C'est à cette période que les Palestiniens nomment encore aujourd'hui l'âge d'or, the golden times, ils disent. Et c'est une période qui paraît très 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 difficile à imaginer aujourd'hui, pendant laquelle les Israéliens, on les croisait, ils allaient faire leurs courses au souk de Ramallah. Un soir, on a vu un groupe de rock dans un café de Ramallah. Il n'y a pas de groupe de rock qui joue aujourd'hui dans les cafés de Ramallah, mais à l'époque, il y en avait. Et ce groupe de rock qui parlait hollandais, on était persuadé que c'était un groupe alternatif de soutien à la cause palestinienne. Et puis quand on s'est approché d'eux, on s'est rendu compte qu'ils parlaient hébreu et qu'en fait c'était des colons. C'est inimaginable aujourd'hui. C'est des colons, tendance même assez dure, pouvaient aller à Ramallah à cette époque jouer. Et ça gênait pas les Palestiniens. Et puis les Palestiniens avaient l'occasion à cette époque d'aller à Tel Aviv à la plage. Hein. Donc c'est quelque chose que... Je pense que ça a conditionné, cette expérience-là a conditionné tout notre regard pour la suite et nos désirs de faire ce film, parce que, quels que soient les discours théoriques ou sur la question, nous, on avait vu ça, on l'avait senti, on était donc persuadés que, finalement, les liens extrêmement distendus maintenant peuvent être renoués assez vite, parce que ça, c'était en 98, et puis, genre, 3 ans avant, c'était, ou 4 ans avant, ça allait pas bien du tout. Donc, ça nous semblait pas si absurde et illusoire que ça, cette histoire de paix. Par contre, quand on est arrivé sur place, ça n'a pas duré longtemps, ça a mis une soirée, 2 jours, 3 jours, pour qu'on se rende compte qu'on allait très loin du compte.
Oui, mais pourquoi vous parlez de gifles, puisque d'après les déclarations, aussi bien de Shaul Hariely, qui était à Genève récemment, lui prétendait, enfin lui prétend que, mm-hmm. Que le film a apporté quelque chose, que l'initiative a apporté quelque chose, pardon, en disant que, par exemple, l'abandon, enfin le retrait de Gaza serait aussi une conséquence indirecte. Bien de... Sûr. Donc, votre film a eu un effet positif, enfin l'initiative et le film a un effet positif.
Ouais. Non, bien sûr. Si aujourd'hui, non, cette gifle, elle, je dirais ce retour de bâton, on le sent en décembre 2003, le 6 décembre quand on va à Jérusalem, donc à peu près quelques jours après le lancement de l'initiative. Maintenant, si on parle aujourd'hui, ce que disait Shaul Hariely l'autre jour, c'était aujourd'hui en 2005, on peut se rendre compte qu'effectivement l'électrochoc, en tout cas dans les chancelleries internationales et surtout pour, je pense, le gouvernement israélien, qui a déclenché l'initiative de Genève, a forcément suscité, enfin en tout cas, pour les gens d'Initiative de Genève, qui c'est un peu la méthode Coué de penser ça, ils pensent que c'est grâce à eux qu'il y a eu le retrait de Gaza. Je ne sais pas si on peut être aussi affirmatif, mais quoi qu'il en soit, il n'y avait rien. Hein, avant 2003, on sortait de 3 ans d'intifada et de guerre totale. Et puis tout à coup, il y a l'Initiative de Genève jetée comme dans un pavé dans la mare, et qui a forcément obligé le gouvernement Sharon, qui ne proposait rien, si ce n'est que de continuer la guerre et la confrontation permanente, les a obligés à proposer quelque chose. Alors ça, c'est tout à fait vrai que l'initiative de Genève était déclencheur. Maintenant, ce plan, je ne pense pas qu'il l'a sorti comme ça du jour au lendemain en disant « Ah ben, il y a Genève, moi je vais sortir de Gaza. Hein, » C'était dans les esprits déjà. Mais aujourd'hui, on peut se dire que... Et c'est pour ça qu'on a fait ce film, c'est pour ça qu'on le sort et qu'on le défend aujourd'hui, parce que nous, on pense que l'initiative de Genève a déclenché des choses extrêmement positives et qu'il y a des portes qui ont été ouvertes, et qu'aujourd'hui, il y a une opportunité, il y a une fenêtre, et qu'il faut en parler et qu'il faut la garder vivante. Et là, on rejoint les promoteurs de l'initiative. Maintenant, nous, il ne reste pas moins qu'en décembre 2003, comme les promoteurs de l'initiative, on pensait que ça allait rencontrer un écho beaucoup plus favorable au sein de la population. Et ils avaient tout fait pour. Ils ont fait une campagne de formation médiatique, marketing, des flyers, des pins, des casquettes, des t-shirts, des drapeaux, des ballons, enfin tout, hein, comme on lance un produit commercial. Et là, ils se sont plantés. Et nous, on raconte le début de cette plantée et comment est-ce qu'ils essaient de sortir tranquillement la tête de l'eau.
Alors justement, le film commence par ces défilés de Palestiniens, enfin des deux côtés, mais je me souviens des Palestiniennes qui manifestent en présentant les négociateurs comme des traîtres. Mm-hmm. Bon, si on va un petit peu plus en arrière, je crois que les négociateurs étaient les mêmes ou dans la lignée depuis Oslo, Madrid, Tabar. Comment est-ce qu'on peut dire que ces négociations ont été secrètes? Ce sont les mêmes personnes sur plus de 10 ans?
Non, là c'est pas temps, sur, là c'est sur 2 ans, hein. Oui, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont en fait, ils existent ces gens, ils existent encore aujourd'hui, ils existaient depuis, on va dire, ils existaient déjà avant Madrid, hein. Simplement, avant Madrid, il y avait la première intifada dès 1987. Ensuite, elle a cessé cette intifada avec Madrid, et ces gens qui étaient déjà des combattants, soit pour la paix, soit qui étaient des combattants tout court avant, se sont profilés comme personne qui allait pouvoir parler à l'autre. Ces gens-là, ils n'ont jamais cessé de le faire. Simplement, ils ont un problème tout simplement pratique, c'est un problème de moyens. C'est que d'aller de Ramallah à Tel Aviv et inversement, c'est pas possible la plupart du temps. C'est très difficile. Donc il faut se rencontrer à Londres, il faut se rencontrer à Zurich, il faut se rencontrer à New York. Il faut faire des campagnes médiatiques. Même ne pas faire de campagne médiatique et être dans le secret, ça coûte cher. Il faut voyager. Et donc ces gens-là ont tout le temps besoin de soutien. Donc finalement, ce qui se passe, maintenant si on sort un peu le nez de l'initiative de Genève, c'est que tous les 3-4 ans, on se rend compte qu'il y a des espèces de cycles. Et que ça a été Madrid en 91, c'est ensuite Oslo en 93, ensuite c'est Taba, c'est Camp David, puis après c'est Genève. Et puis maintenant, on peut tout à fait imaginer qu'un autre parrain ou sponsor arrive et eux en sont demandeurs. Hein, il y a de la place pour ça. Ça peut être un Japonais, je ne sais pas, un Alexis Keller japonais, qui peut-être va monter un projet incroyable, qui va dire, voilà, moi ça va se passer à Tokyo, je veux vous voir tous les 2 mois, je vais vous donner les moyens de vous rencontrer, on va discuter sur telle base. Ils vont probablement embarquer parce qu'ils ont besoin de soutien. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Genève. Alexis Keller a fait un travail absolument extraordinaire avec sa foi à renverser les montagnes. Mais j'entends, il n'a pas inventé Yasser Abedrabo ou Yossi Béline. Ni il n'a inventé l'engagement de Yossi Béline ou de Yasser Abedrabo. Et les gens que nous, on suit dans notre film, c'est des gens qui le portent en eux. Et comme Nazmi Al-Joubi, archéologue, le dit si bien, la paix, ce n'est pas un morceau de papier, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit n'est pas né avec Genève et ne disparaîtra pas avec une éventuelle fin de Genève, ce qu'on n'espère pas. Mais...
Et avec Béatrice Galpa, comment avez-vous séparé le travail? Chacun a filmé l'un en Palestine et l'autre en Israël. Comment s'est passé?
Non, c'est une aventure collective. Hein. Il y a eu d'abord ça a commencé par le film. Donc on a été par contre là où oui là où on a séparé les choses, c'est où on tournait en fait. On s'est rendu compte assez vite que on pouvait pas passer de Ramallah à Tel Aviv et de Tel Aviv à Ramallah comme ça d'un jour à l'autre sans perdre beaucoup de qualité d'écoute ou de on éprouvait le sentiment de devoir séparer les tournages assez vite de façon à rester le plus honnête possible, le plus disponible à entendre ce qu'avaient à nous dire les Palestiniens et aussi ce qu'avaient à nous dire les Israéliens. Donc dans ce sens-là, on a séparé les tournages, on a décidé très vite, entre les tournages, de revenir à Genève et puis de fonctionner comme ça. Mais sinon, on a travaillé ensemble sur le film et puis ensuite sur le livre.
Et quand vous parliez de ce décalage que vous avez ressenti en arrivant au Moyen-Orient, est-ce qu'il y a véritablement une vision totalement différente entre celle des Européens, la façon dont on voit le problème? C'est ce qui me semblait que vous l'aviez spécifié dans votre intervention.
Il y a un décalage, de manière générale, il y a toujours un décalage.
Parce que c'est ce qui vous a surpris, je crois, quand vous êtes arrivé, c'est cela.
C'est pas tant ça qui nous a surpris, je pense. C'est d'ailleurs ce qui a surpris les gens qui sont des professionnels et qui sont payés pour faire ce projet. Autant les diplomates suisses que les promoteurs de l'initiative. Eux ont été surpris, donc nous, on allait aussi l'être, ça, de toute manière. On n'était pas plus... je dirais plus visionnaire qu'eux, mais ce que je crois que de toute manière, quand on fait la perception qu'on a d'une situation de conflit depuis ici et la perception qu'on peut en avoir quand on est sur place est de toute façon différente. Moi, je reviens de Sarajevo il y a pas longtemps, j'ai senti le conflit yougoslave, ex-Yougoslavie, sur place très différemment de l'image que j'en avais. Heureusement, fort heureusement d'ailleurs. Mais ça, je pense, c'est pas propre à la Palestine et à Israël. Par contre, ce qui était, pour reprendre ce que disait Béatrice un peu, c'est que ce qui a été particulier pour nous, c'est on s'est rendu compte en allant sur place que si on gardait cet angle d'attaque qui est celui que les médias prennent la plupart du temps, c'est-à-dire pas d'être partisan, parce qu'il s'agit pas de pas l'être. Nous, on a nos idées aussi très fortes sur la question, mais on est toujours, je pense, quand on traite le sujet, on a une approche extrêmement émotionnelle. Et nous, on est aussi, bien tristement, on est des gens très émotionnels, comme tout le monde. Simplement, on s'est rendu compte, pour reprendre ce qu'elle disait avant, que si on allait aborder les Israéliens en étant chargé émotionnellement de l'indignation et de la souffrance du peuple palestinien, qui est indéniable, qui est indiscutable, qui n'est pas comparable, nous, on ne voulait pas rentrer dans les comparaisons. Ils souffrent plus ou moins que les Israéliens. C'est un débat qui est impossible. Ils souffrent de manière très, très différente. Et si on allait le soir à Tel Aviv dans un joli café discuter de la peur que les Israéliens ressentent ou de leur difficulté à vivre avec leur conscience, etc., alors qu'on venait de passer un après-midi dans un camp de réfugiés dans les environs de Bethléem ou Naplouse, c'était juste impossible. Il y avait un tel décalage entre ces deux réalités. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut rendre hommage d'une certaine manière aux souffrances des uns et des autres et les considérer en tant que tels. intrinsèquement. Donc c'est là que ça, c'était notre grande découverte. On s'est dit, si on veut que les gens qui sont, entre guillemets, plutôt à l'écoute d'Israël, par exemple, qui ont une sensibilité plutôt israélienne, entendent notre film aussi, on peut pas, il faut qu'on rentre en matière sur la question israélienne, et pas toujours conditionné par la souffrance des Palestiniens, et vice-versa. Et ça, je crois que ça... je pense que ça a réussi parce qu'on a des réactions très très particulières qui sont assez rares lorsqu'on fait un film sur le sujet. On n'a pas seulement les gens de sensibilité palestinienne qui s'y retrouvent, parce qu'on dénonce des choses dans le film, on montre la réalité. On montre la réalité de l'occupation, on montre que ça va pas, on montre que le mur ça va pas, que les colonies ça va pas. Mais on a aussi des Israéliens, et parfois même des gens de la communauté juive, de la diaspora, de tendance, on va dire, plutôt hardline, quoi, dure, des likoudistes, des gens qui pensent encore au grand Israël, qui nous disent en sortant du film, eh bien écoutez, ça ne nous fait pas tout à fait plaisir d'entendre ça, mais on est obligé de l'entendre et de l'écouter, parce que la manière dont vous nous l'amenez pas de manière partisane, vous n'êtes pas en train de faire notre procès en permanence. Et c'est vrai qu'on a nos idées, mais qu'on essaye, nous, dans le film, de laisser s'établir la pensée de chacun. Et puis après, on les confronte, on les met l'une en face de l'autre, en regard, et elles se répondent. Et puis je pense qu'on en sort avec une impression que, oula, c'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Voilà, c'est ça. Oui, ça donne à penser aux gens, ça ne les laisse pas indemnes après. Il faut réfléchir un peu.
Vous montrez bien la différence quand, par exemple, on voit des jeunes évoluer dans Tel Aviv, qui est une ville aussi moderne que Genève, et que les enfants palestiniens, pour aller à l'école, on les voit marcher sur les gravats et se faire un chemin. Bon, vous n'avez pas travaillé dans le sensationnel, mais vous avez réussi à montrer cette violence.
Oui, parce que je crois que... Mais quiconque va dans la région se rend compte de ça tout de suite. Quiconque a l'occasion de... Vous pourrez nous le confirmer, je pense. Enfin, quiconque va sur le terrain, on peut pas rentrer en matière sur des questions de la souffrance est égale. Non, c'est deux souffrances très particulières. Il y a quand même un pays qui occupe et un pays qui est occupé. Hein. Et de tout temps, lorsqu'on occupe, on souffre d'occuper. On a des maladies psychiques d'occuper. On a des cas de conscience parce qu'on occupe. Mais on souffre moins dans sa chair quand on occupe que quand on est occupé, par exemple. Donc, qu'est-ce qui est sur l'échelle de Richter de la souffrance? Qu'est-ce qui est le plus important? De souffrir dans sa chair, de souffrir dans son âme? Enfin, c'est un débat interminable. Donc, nous, on a choisi de ne pas entrer là-dedans, dans la comparaison, mais de dire, voilà, quand on va aller voir les Israéliens, ils vont nous raconter leur souffrance. Quand on va aller voir les Palestiniens, ils vont nous raconter la leur. Mais le sujet du film n'est pas là. Le sujet du film, c'est que face à ces deux souffrances, qui sont là, hein, qui sont indiscutables, il y a des gens qui, de part et d'autre, pour des motifs différents pour chacun d'entre eux, ont décidé que c'était assez. C'est ça, en fait, le début de l'initiative de Genève, le début d'Oslo, le début de tout ça. C'est qu'il y a des gens qui disent « on peut continuer comme ça ». Il y a des gens qui disent « c'est même bien de continuer comme ça ». Il y a des gens qui font leur beurre du fait que ça continue comme ça. Il y a des gens qui n'ont surtout pas envie que ça s'arrête, que la guerre s'arrête. Et puis il y a des gens... La majorité, malheureusement, qui dit « on veut que ça s'arrête, mais on ne sait pas comment faire ». Et puis, il y en a qui disent, qui sont une petite minorité, qui disent « nous, on veut que ça s'arrête, mais on sait comment faire ». Et on a discuté avec l'autre, et l'autre est d'accord. Moi, je suis d'accord avec lui, je fais des concessions, je m'assieds sur toute une série de paramètres et de désirs que j'avais, pour les Palestiniens, en l'occurrence, s'asseoir sur la question du droit au retour, hein, qui est le tabou ultime chez les Palestiniens quand même, pour les Israéliens, s'asseoir par... sur Jérusalem, capitale indivisible de l'État d'Israël, blablabla. Et ils discutent avec les uns et les autres. Et c'est ça le film. Et c'est ça l'initiative de Genève. Et ces gens-là prennent d'énormes risques parce que c'est pas tout le monde qui le fait.
Oui, donc le film arrive surtout à mettre en évidence que ces deux populations qui souffrent ont décidé de faire un compromis et non pas une paix. Et les deux disent que cette paix ne sera, que ce compromis ne sera pas juste, bien sûr. Mais au moins, il leur permettra de vivre.
Voilà. Il y a une phrase que nous, on dit dans le texte qu'on lit au début. On dit, il ne s'agit pas d'une paix juste, mais d'une paix réaliste. Elle n'est pas juste, cette paix. Elle n'est pas juste. C'est pas juste que les gens... C'est pas juste que les Palestiniens aient dû quitter Haïfa en 48 et puissent pas y retourner. C'est pas juste. C'est pas... Par contre, les Israéliens vont penser que c'est juste qu'ils y soient. Les Palestiniens pensent que c'est juste aussi qu'ils y soient. Donc on n'est pas dans la question de justice seulement. On peut combattre pour ça. On peut avoir ses idées et on peut combattre pour la justice. Mais disons que ça fait 60 ans qu'ils combattent pour la justice les uns les autres et que ça n'avance pas. Donc il y a des gens qui ont dit, ben voilà, on ne sera plus dans la justice, on est dans la solution. C'est pas très glamour, c'est pas très, d'un point de vue moral, c'est pas très excitant. fait froid, hein, et voilà, ces gens, ils essaient de porter ce projet. Alors justement, c'est peut-être un peu trop froid. Alors ça, c'est intéressant. C'est dans le livre que Béatrice a écrit, qui comporte aussi des images du film,
qui s'appelle Les coulisses de l'accord.
Qui s'appelle Les coulisses de l'accord. On a justement essayé, nous, de réintroduire, et surtout à travers la plume de Béatrice, de réintroduire la notion émotionnelle, parce que on était en train, nous, de faire un film sur des gens qui ont décidé d'être froids. Des gens qui ont dit, voilà, c'est comme des juges qui opèrent un divorce. Hein, c'est pas très, très émotionnel, un juge. Il est justement là pour ne pas l'être. Alors, ils ont dit, voilà, nous, on va surtout pas céder aux émotions, on va être froid, et puis on va raconter aux gens qu'il faut ça aujourd'hui, que c'est la seule solution. Et puis ça, ils le font face à des auditoires qui ne sont que dans l'émotionnel. Et puis, eux se retiennent tout le temps. C'est d'où peut-être une des critiques qu'on peut leur faire, et ils s'en sont rendus compte. C'est peut-être à force d'être si froid et si clinique que le message n'atteint pas sa cible. Surtout quand on parle à une des régions du monde où tout n'est qu'émotion. Voilà. Et ben nous, on a essayé de trouver le même paradoxe dans ce qu'on a voulu faire. Dans le film, je vous le disais avant, c'était garder une espèce de sang-froid aussi, pas céder trop aux émotions ou à l'indignation, sinon c'était pas possible. Et puis alors, on a aussi trouvé un moyen, un palliatif pour exorciser notre devoir de pas de froideur, mais enfin de retenue, je dirais, et d'équilibre. Et c'est plutôt dans le livre. Et je pense que dans le livre, c'est beau. On a un ton plus personnel parce qu'on est aussi des êtres humains. Quoi. Et le soir, quand on rentrait à l'hôtel, on avait pris sur nous. Tout à coup, ça explosait. On n'en pouvait plus. Et ça, Béatrice, je crois qu'elle le raconte bien dans le livre.
Le moment des choix, disons, en tant que cinéaste, je pense que vous avez dû lutter pour éliminer tout, non, amoindrir toutes les scènes de violence, je pense, quand vous présentez le bus qui a explosé. Il n'y a pas d'image sensationnelle, c'est vraiment pour montrer la violence et qui est ressentie par les personnes sur le lieu. Je crois qu'il y a beaucoup de respect par rapport à la population qui souffre, d'un côté ou de l'autre.
Bah pour nous, par exemple, dans le cadre de ces images d'attentats, c'était important d'arriver à les montrer de façon différente, parce que c'est des images qu'on voit malheureusement assez souvent à la télévision, et puis qu'on finit par ne plus voir, parce que c'est toujours les mêmes. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait, il fallait absolument montrer cette souffrance-là, et que ce qu'on voyait pas, c'était les visages des gens. Donc en fait, cette scène, elle est très forte dans le film, et elle est tout est vu à travers les visages des gens. Alors on voit effectivement, on voit peu de sang, et par contre, on voit extrêmement bien la douleur d'une femme policier qui est seule et qui n'arrive plus à retenir ses larmes. On voit l'effroi d'un homme qui regarde cette scène. Tout est vu à travers le regard des personnages, enfin des personnes qui se trouvaient là à ce moment-là. Et puis peut-être que ça permet de toucher les gens, quoi, de les remettre dans une situation où ils peuvent se dire ouais, ben je pourrais être là.
Oui, parce que l'impact est beaucoup plus fort. Il n'y a pas de sang, mais il y a la souffrance personnelle de chacun des personnes qui se sont trouvées sur les lieux.
Oui, c'est ce qu'on voulait montrer, oui.
Et disons, plus de violence aurait aussi rendu le film plus difficile à voir de chaque côté. Est-ce qu'il est vu par les Israéliens et les Palestiniens? Est-ce qu'il est
présent? Oui, il va être vu. Il a déjà été vu une fois à Tel Aviv. Et là, il y a une série de projections qui vont commencer cet hiver, enfin, à partir du mois de novembre. Et puis en Palestine, en Israël, dans la cinémathèque de Tel Aviv, la cinémathèque de Jérusalem, et puis aussi dans les autres villes. On est actuellement en discussion avec un distributeur israélien. Et puis, du côté palestinien, on attend un peu, parce que la situation actuelle, due à la tenue des élections en janvier, la situation est très tendue. Il y a des enjeux très forts, et pour les personnages du film palestiniens, c'est très risqué actuellement. C'est-à-dire que Genève, c'est quelque chose qu'on leur brandit comme une maladie honteuse, un peu. Hein. Genève, c'est pas très... ça va pas dans le sens de... Donc c'est pas une position combattante. C'est considéré parmi les Palestiniens comme une position de renoncement. Comme une position de lâcheté même, de concession. Donc on ne fait pas une campagne électorale sur la concession, c'est difficile. Donc pour le moment, ils font profil bas et nous ont demandé d'attendre, pour ne pas les mettre en danger, que le film, d'attendre que les élections soient terminées pour sortir le film et refaire débat dans un climat un peu plus serein et apaisé.
Est-ce qu'ils ressentent un petit peu comme une solution aussi imposée de l'extérieur? Même s'ils ont participé aux négociations.
Les Palestiniens...
conclusions de l'initiative, oui.
C'est plus complexe que ça. C'est que ce débat-là, il existe... il existe au sein de la population palestinienne, comme il existe au sein de la population israélienne. Ils n'ont pas besoin de l'initiative de Genève ou des Suisses ou des Norvégiens ou d'Oslo pour le faire. C'est des outils c'est des outils, je dirais, techniques, mais ce débat, il a lieu. Les gens qui sont nos personnages dans le film, palestiniens, sont des gens qui ont été au gouvernement, ou qui le sont encore dans le cadre de Rafares. Alors, eux, ils sont sur la scène internationale médiatisée par Genève, il faut qu'il y ait un nom, un label. Mais parce que le label discours interne du Fatah ou de l'autorité palestinienne, c'est pas un label, ça. C'est pas. Mais ils sont en permanence en train de discuter de ça. Mahmoud Abbas est très proche, d'un point de vue moral et, je dirais, d'approche historique, de l'initiative de Genève. Mais il le dit pas, il ne peut pas le dire, mais tout le monde le sait. Les gens qui étaient dans Genève sont les conseillers, les bras droits de Mahmoud Abbas. Si aujourd'hui Sharon disait « je signe Genève », Mahmoud Abbas signe Genève tout de suite. Ils ont aussi un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trop se montrer et se dévoiler, alors qu'en face, ils ont quelqu'un qui ne discute pas. Ce serait s'abaisser. Donc, tout ça est très compliqué aussi.
Alors justement, puisque vous aviez présenté, organisé plutôt un débat avec le psychiatre qui devait venir de Gaza, qui sont quand même des...
C'est le manifeste.
C'est le manifeste qu'il organise, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont quand même des actions qui sont faites en faveur de la paix. Comment se fait-il que des personnages comme lui n'aient pas été autorisés à sortir?
Écoutez, moi, je suis pas du tout au courant de ce dossier-là, peut-être.
Mais je n'ai pas plus d'informations à ce niveau, mais simplement, j'aimerais réagir par rapport à ce que j'ai entendu ici au début, c'est-à-dire cette notion d'échec, de baffe que vous êtes prise ce 6 décembre 2003. Mais finalement, toute gifle est porteur de germes, hein, quelque part. On vient de l'évoquer ensemble autour de cette table. Et ce que je trouve de fondamental dans cette initiative de Genève, c'est ce travail d'objectivisation. Donc on est dans un état d'esprit rationnel, on va rationnellement se mettre autour d'une table. Et je crois que ce point d'accroche a son effet qui se répercute un peu partout, on l'a aussi évoqué, c'est aussi dans ce cadre que l'archéologie peut être un débat portant sur une connaissance objective d'un passé qui, lui, a été récupéré de part et d'autre de manière abondante, et on n'est encore pas au bout de cette histoire-là. Par contre, et c'est peut-être là où il est important de ne pas baisser les bras et d'arriver avec des propositions concrètes, dans ce contexte, l'archéologie genevoise, en l'occurrence le musée d'art et d'histoire, envisage de faire une exposition sur les découvertes archéologiques de Gaza. Il y a toute une histoire derrière. Pourquoi ? Parce qu'on trouve dans les fouilles de la cathédrale de Genève des amphores de la bande de Gaza qui ont été amenées à Genève il y a 1500 ans. Donc il y a déjà cette notion d'aller-retour entre Genève et Gaza. Et à partir de là, nous partons dans une idée d'exposition. On va montrer un peu un autre aspect de cette bande de Gaza, l'autre aspect que le côté carcéral, troué, enfermé, dramatique qu'on y rencontre. Et pour aller dans une notion de développement durable, c'est-à-dire de continuer au-delà d'un effet de l'immédiat, mais de s'inscrire dans une durée, il y a une demande très forte de la part des Palestiniens d'avoir aussi un musée archéologique. Pourquoi ? Parce que ces vestiges existent, ce sont ceux des ports antiques de Gaza, c'est toute l'ouverture sur la Méditerranée, donc toutes les bonnes raisons et l'impact émotif et symbolique sont là. Et à partir de là, parce qu'il y a eu cette approche de l'initiative de Genève, concrète, terre à terre, pragmatique, en essayant d'éviter ces charges émotionnelles, l'archéologie peut être un état d'esprit pour explorer le passé de la même manière, pour mettre à niveau Gaza de la même manière qu'Ashkelon a été mis à niveau aussi au niveau de son passé, ou Césarée, encore plus au nord, et donc d'arriver à une lecture homogène de ces périodes de temps et des civilisations qui ont vécu et se sont développées, se sont succédées sur cette terre-là. Ça amènera un état d'esprit où on pourra à terme parler le plus objectivement possible d'un passé qui forcément par moment a été commun, par moment a été différent, divisé, éclaté, se retrouve et se remodèle de manière continuelle. Donc c'est une aide concrète à un aspect de la solution possible, et cette aide, elle découle très directement de ce qu'a été l'état et de ce qu'est encore, à mon sens, l'état d'esprit de l'initiative de Genève. Donc la BAF est porteuse d'espoir.
Bien sûr, bien sûr.
Mais la plupart des personnes qui se sont exprimées récemment des deux côtés trouvent que l'initiative fait faire des progrès.
Oui, elle a ouvert des portes dans les esprits. Mais mon sentiment aujourd'hui, c'est que la Suisse, en tout cas en soutenant ce projet, et en faisant preuve, parce que finalement c'est un projet assez suisse, hein, au sens où c'est pas pour rien qu'ils se sont bien retrouvés, même si encore une fois ils ont pas attendu les Suisses pour le faire. Mais c'est marrant, c'est les Norvégiens d'abord qui sont sur ce coup-là, après c'est les Suisses. Mmh. C'est pas ça aurait peut-être pu être les Italiens, mais il me semble qu'il y a une manière assez, c'est assez protestant, je trouve tout ça. C'est assez, voire calviniste. C'est très, c'est assez austère. Non, mais c'est un projet austère. Ça a été approché. C'est pas un projet latin. C'est pas un projet latin dans l'approche. Je veux dire, ça a été porté par un. Oui, il y a une certaine austérité, une certaine sécheresse comme ça dans le propos. Et je pense qu'il est très très bien parce qu'il nous amène à la rationalité. Que c'est une région irrationnelle, totalement. Hein. Une région, on l'a dit, émotionnelle, émotive, irrationnelle. Et là, tout à coup, il y a un projet qui arrive, qui, vous l'avez tout à fait bien dit, qui aussi, dans l'archéologie, doit faire preuve. Maintenant, on doit retourner dans le passé pour raconter une histoire sans être en permanence otage de ces situations émotionnelles. Hein. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on est sur la corde raide en permanence, hein, parce que la région, elle, ne l'est pas. Pour autant, c'est pas parce que l'initiative de Genève est arrivée que nous, on a les gens d'ici, avec des Palestiniens et des Israéliens, arrivent avec cette espèce d'état d'esprit beaucoup plus froid, que sur place, les gens les suivent. C'est quand on parlait de BAF, c'est ça, c'est que les gens, ils sont restés dans leurs émotions. Donc maintenant, ce travail-là, moi, je pense qu'il n'a de valeur que s'il est continu, incessant et permanent à tout niveau. Donc c'est la quête que vous avez à travers l'archéologie, c'est la quête que le Département fédéral des Affaires étrangères doit absolument continuer à mener et pas lâcher maintenant, parce que ce truc-là, il peut repartir très vite. On n'aura pas insufflé de la rationalité qui reste. D'ailleurs, de l'extérieur. On n'est pas arrivé, puis on n'aura pas ouvert des portes qui restent ouvertes. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Ces portes, elles se referment tout de suite dès qu'on ne remet pas l'ouvrage sur le tapis. Il n'y a aucune raison que ça reste, que ces portes de rationalité et d'équilibre et de réflexion posées restent ouvertes, vu que sur le terrain, il y a des gens de part et d'autre qui sont en permanence là pour les refermer. Hein, c'est les attentats, c'est les assassinats ciblés, c'est les bombardements de Gaza. C'est, voilà, ce qu'on a vu ces derniers jours, ça montre que hop, ça peut se refermer. Ah, vous voyez que ça vaut pas la peine d'être rationnel. Ils se foutent de notre gueule. Vous voyez que ça vaut pas la peine. Ils continuent à attaquer. Donc, je pense que ça, ce que vous faites, est absolument admirable de ce point de vue. Et il faut qu'il y ait toute une série d'initiatives qui maintenant, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'un projet avec les documentaires palestiniens. Il est aussi un petit peu imprégné de cet esprit de l'initiative de Genève, qui est peut-être l'esprit de Genève d'ailleurs au-delà de ça. C'est-à-dire essayer à un moment de résoudre les conflits en ayant une approche effectivement un peu moins émotionnelle et puis qui tienne compte de la situation puis qui est faite de concessions, qui est dans la raison.
C'est pas facile. Compte, donc, de toutes les compétences, les archéologues, mais aussi donc les cinéastes. Est-ce que vous étiez parti dans un sens au début, d'après ce que j'ai compris, pour faire le film d'un succès, d'une initiative? Et après, vous avez donc... est-ce que ça a changé votre vie? Parce que vous avez dû, dans une certaine mesure, épouser la cause.
C'était toute la question qu'on se posait régulièrement. Je crois que, encore une fois, je pense que les clés... Le film donne des clés sur nos personnages, des clés sur nous. Elles sont peut-être dans le livre. Donc c'est pour ça que les deux choses sont tout à fait complémentaires. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'aller voir le film et ensuite de lire le livre. Parce que ça se fait pas sans dommage. C'était encore une fois, on en parlait avant. Nous aussi, on a essayé de garder cette tête froide, hein, comme je vous l'expliquais avant. Et puis, c'est pas possible. C'est pas possible. On doit trop prendre sur nous. Donc, heureusement, là, il y a le livre qui raconte les dessous de l'accord, mais aussi les dessous de notre état d'esprit pendant le tournage du film L'accord, je pense.
Vous avez eu envie d'arrêter?
Oui, on a eu envie d'arrêter souvent.
Alors je suppose, vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui sont contre l'arrêt de la guerre, enfin que la guerre arrange. Est-ce que vous avez subi des pressions, enfin des encouragements de la part de ceux qui veulent favoriser le succès de l'initiative, et puis de l'autre côté des pressions de ceux qu'une initiative de paix dérangerait?
Non, et puis c'était presque un moment signe, donc on peut considérer ça à double tranchant, je pense. On n'a pas subi de pression, jamais, hein, jamais. Et on peut considérer que c'est très positif, hein, parce que ça signifie qu'il y a une réelle démocratie en Palestine et en Israël quant à l'information, quant au fait de filmer, quant au fait de raconter. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais malgré tout ce que les uns et les autres pourront dire, il y a des pressions médiatiques, comme il y en a dans tous les pays, mais enfin, je veux dire, par rapport à un pays en conflit, par rapport à une région en conflit, on peut sortir sa caméra, on peut filmer, on peut dire qu'on filme. Moi, j'étais dans beaucoup d'autres pays de la région. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur aussi. Il y a des pays comme la Tunisie. Si on va filmer en Tunisie, la personne qui est filmée, elle est en danger. Et puis quand vous sortez de la rue, suivant ce que vous faites comme sujet, vous êtes suivi. Il n'y a pas qu'en Tunisie, il y a d'autres pays comme ça. Ça, ce n'est pas le cas là-bas. Par contre, on est très probablement suivi, on est très probablement discrètement, on ne nous met pas la pression. On est peut-être parfois écouté. Mais enfin, j'entends, ils ont dû estimer de part et d'autre qu'on n'était pas bien dangereux vu qu'on nous a laissé faire notre travail. Maintenant, l'autre aspect, le revers de la médaille, c'était peut-être qu'il y avait un tel... On nous lâchait tellement la bride, on a tellement pu faire ce qu'on voulait, qu'on peut presque se dire qu'on est en train de faire quelque chose qui est tellement peu menaçant, donc tellement peu important sur l'échiquier politique actuel. Et ça, c'est, je dois vous dire, un peu le sentiment qu'on a eu. Parce que, et c'était, comme baromètre, c'est pas terrible comme signal. Mais bon, on peut
c'est,
le prendre.
C'est pas plein de vitesse. Je trouve que la démonstration est belle. Le fait qu'on puisse travailler dans l'objectivité, c'est de démontrer qu'on a besoin de cette objectivité. Donc oui. Ça va bien dans le sens de cet état d'esprit. Hein. Vous en faites la démonstration, oui. Là, de nouveau, de ce besoin premier.
Mais je pense que si le projet, si cette initiative de Genève, donc par conséquent notre film sur les gens qui l'apportent, oui. Était réellement un enjeu en Palestine et en Israël, un gros enjeu, on aurait subi des pressions. Et ce que je veux dire, c'est que les gens, nos personnages, en ont subi avant qu'on arrive. Dans la période juste avant la signature, ils en ont subi. Aujourd'hui, ils en subissent de nouveau. Pendant la période pendant laquelle nous, on a tourné le film, je crois qu'il y a eu quelque chose de tel, mais qu'il faut dire, il faut avouer, il y a eu une indifférence quasi absolue de la part de la population palestinienne et de la population israélienne, souvent. Pas totale, mais enfin, c'était pas si dangereux que ça. Moi, c'est un peu le sentiment qu'on a eu, c'est qu'on pouvait en parler. Ah, vous faites un truc là-dessus. Ah bon, très bien. Ouais. Il y a des gens qui nous aiment. Ça s'appelle comment? Faut le dire. Hein. C'est pas très, très. Ça n'enlève rien aux qualités, j'espère, du film et du livre et à la qualité de l'initiative aussi. Mais j'entends les chauffeurs de taxi dire ah, vous êtes venu faire ce truc là-dessus là. Ah ouais. Ouf. C'est quoi déjà? Enfin, ils mélangent avec le nombre de gens qui mélangeaient entre Genève. Ils savaient pas si c'était l'autre initiative. Il y a eu trois initiatives en même temps. Alors d'ici, nous, on a l'impression que c'est extrêmement important. Encore une fois, ça l'est, mais il faut remettre un peu l'église ou la synagogue ou la mosquée au milieu du village. C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Alors, puisque vous parlez de population, est-ce qu'il y a des sondages actuels? Si on le faisait aujourd'hui, qu'est-ce que la population choisirait?
Ouais, les sondages, ils leur font dire. J'ai l'impression en permanence qu'ils leur font dire ce qu'ils veulent.
Ou alors, dis-moi, est-ce que vous sentez que...
Non. Je crois qu'il y a une option vraie. Dans lorsqu'on parle de sondage, qui est la suivante, c'est de dire il y a 20% à peu près de gens du côté israélien, on va dire, qui sont très très durs. Ah, c'est à peu près les chiffres qui nous ressortent plus ou moins tout le temps.
Bachar Olariali parlait de toute la droite qui était
oui,
de toute façon
la droite
opposée.
Super dure, ceux qui ont manifesté contre le retrait de Gaza, des colonies, ceux qui rêvent encore au grand Israël. Il y a un 20 à 30% de gens, peut-être il y en a qui diront c'est 28, c'est 32, enfin, je sais pas, qui sont des pacifistes, enfin ceux qu'on appelle le camp de la gauche pacifiste, qui s'est clairement déterminé pour deux peuples, deux États et un État palestinien sous les frontières de 67, moyennant quelques aménagements. Après, ça dépend un peu en fonction des uns et des autres. Mais... Et puis, il y a cette espèce de majorité, hein, qui est celle qui vote Sharon aujourd'hui quand même, hein. Et qui a aussi voté pour le retrait de Gaza. Hein. Et cette majorité, elle peut basculer un peu comme ça. Elle est fluctuante, mais on a la même chose chez nous. C'est la majorité de la population qui est pas totalement animée par un désir de paix et de règlement du conflit, qui n'est pas animée par un désir de guerre non plus, puis qui est un peu fluctuante. Et c'est sur cette partie de la population-là que les gens de l'initiative de Genève veulent travailler. Ils savent que sur les colons, pour eux, ils se disent c'est pas notre cible, on n'a pas de chance. Les pacifistes, ils sont déjà convaincus. Donc nous, on doit convaincre les gens du milieu. Et puis je pense que du côté palestinien, c'est assez la même chose. On retrouve plus ou moins les mêmes pourcentages. Et après, tout ça évolue en fonction des situations. Un attentat, paf, ça remonte. Un bombardement de l'école comme l'autre jour à Gaza, paf, ça remonte, ça descend, ça... Non ?
Bon, je crois que dans cette initiative, le département des affaires étrangères a cessé le soutien financier récemment. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce qu'il y a eu un changement de politique?
Non, je ne crois pas qu'ils n'ont pas cessé de le soutien. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont diminué ou ils continuent, mais je ne crois pas qu'ils n'ont pas arrêté de soutenir l'initiative de Genève financièrement. Je ne crois pas.
Ils le font de manière concrète, puisque notre mission exploratoire a pu être financée par le département fédéral des affaires étrangères. Donc la ville de Genève s'est vu offrir cette possibilité d'aller sur place, sur terrain, pour prendre les contacts. Et le département fédéral des affaires étrangères était totalement derrière et a organisé cette mission exploratoire. Donc c'était en juillet 2005. On est encore dans le concret et l'opérationnel.
Non, par contre, sur l'initiative, sur les gens qui font l'initiative, oui, il y a un changement d'attitude. Clair, malheureusement, il y a un changement d'attitude parce que ça a été amené au département fédéral des affaires étrangères un peu sur un plateau quand même par Alexis Keller et des fonds privés qui a fait tout le travail en amont. On a amené l'initiative de Genève à Micheline Calmiret qui a eu le courage d'embarquer, de dire ok, j'achète le projet. C'est comme ça que ça a été présenté. Et je veux que ça reste chez nous plutôt que ça parte ailleurs, parce qu'il était question à un moment que ça parte ailleurs, notamment à Londres. Et ensuite, ils ont mis sur pied les Suisses, ce qui était assez étonnant, c'est ce qui nous a complètement sidérés à l'époque. Nous, ils ont mis sur pied leur task force qui s'est impliquée plutôt deux fois qu'une dans le projet, qui rêvait d'être un peu Oslo, qui rêvait d'être norvégien, tout en disant toujours, nous on est 5, ils étaient 300. Enfin, ils s'en approchaient. Et puis, au moment où le vent a un peu tourné, au moment où il y a le retrait de Gaza, où c'est devenu beaucoup plus compliqué de défendre l'initiative de Genève, où ça devenait de la politique internationale de haut vol, là il y a eu une espèce de un revirement de situation assez patent, flagrant. Lors de la célébration d'une année d'initiative de Genève, on passe de 700 personnes et 400 journalistes le 1er décembre 2003 à 12 personnes dans la salle au Club de la Presse à Genève et 4 journalistes, ou 6. Donc voilà, sans la présence de Micheline Calmiret. Voilà, donc, et ça, nous, on espère qu'une chose, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont dans les mains, quand même, quelque chose qui est très difficile à travailler, mais qui en vaut la peine, et qu'il faut continuer à le porter, ce projet. On n'est pas tout à fait sûr que c'est leurs intentions maintenant.
Disons, pour les négociateurs continuent d'essayer de persuader sur le.
Oui, ils continuent. Avec l'argent ou sans l'argent, ou avec le soutien du département, département fédéral des affaires étrangères, oui ou non, il continue de toute façon.
Vous avez rencontré, vous les avez même suivis pendant longtemps, parce que vous les avez filmés. Quelles sont les personnalités de ces négociateurs que l'on a vus à Genève? Est-ce qu'ils sont véritablement investis de cette mission, Béatrice?
Ce qu'on a voulu montrer dans le film, c'est justement les personnes qu'on a choisies. On les a choisies de façon à bien souligner le caractère de chacun. L'idée, c'était de trouver, par exemple, un militaire israélien. Il y a un ancien militaire israélien, une femme du Likoud qui s'est fait expulser de son parti, un publicitaire israélien qui est un activiste de la paix. Chacune de ces trois personnes a une vision de la paix qui lui est propre. Côté palestinien, c'est la même chose. Kadoura Fares, qui est ministre et a passé 14 ans dans les prisons israéliennes. On avait envie de montrer comment est-ce que c'est possible de vouloir faire la paix après 14 ans de prison, après avoir été un des chefs de l'intifada en Cisjordanie. Nazmi Al-Joubi, pourquoi est-ce qu'il avait envie de faire la paix alors que lui aussi, il a passé des années en prison, que son beau-frère a été déporté, sa famille un petit peu, pour le moins, chamboulé par tout ça. Voilà, l'idée c'était de chaque fois montrer que la paix est différente pour toutes ces personnes et que c'est pas seulement vu d'ici, on a toujours l'impression que c'est quelque chose un peu peace and love, et puis là, ben non, c'est des gens pragmatiques qui ont chacun une idée assez précise à défendre.
Oui, tous les jours ils sont confrontés à des assistances qui sont très dubitatives, qui ne croient pas du tout à l'initiative.
Oui, par exemple, Nazmi, tous les jours, quand il va voir son père, qui a jamais cru à son engagement, son père habite près d'une colonie, et il lui dit, mon fils, voilà, moi j'ai même pas envie de te parler, il ouvre sa fenêtre, et lui dit, voilà, toi tu me donnes des mots, tu me parles de tes plans de paix, et regarde, eux, ils construisent des maisons, et ils désignent donc les colonies israéliennes qui sont en train de se construire. Donc chacun, à son niveau, doit se battre contre son père, contre Nera Maronen doit se battre contre son patron ou contre son parti. D'autres, chacun a des comme ça des combats à mener qui sont d'ordre très personnel en fait. Évidemment, ils doivent convaincre chacun dans son propre camp, mais aussi dans toutes sortes de niveaux, à toutes sortes de niveaux.
Alors on arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous préciser les débats qui vont avoir lieu dans les prochains jours, puisque le film est à voir au CAC Voltaire.
Alors ce soir, il y a un débat à l'issue de la projection. Donc la projection, elle commence à 20h15. Et puis, on avait envie de parler de l'esprit de Genève, d'interroger cette notion. Dans quelle mesure est-ce que cet esprit est toujours vivant? Est-ce que cette initiative de Genève participe de cet esprit de Genève ou pas? La semaine prochaine, le 6 octobre...
Quel invité?
Évidemment, oui, avec Alexis Keller, donc, qui est à l'origine le père de cette initiative de Genève, et Antoine Maurice.
Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut prendre tous les renseignements?
Oui, il y en a un. C'est le site, Attendez un peu.
Ou un numéro de téléphone. Nos lunettes.
Je l'ai. C'est www.moadistribution.ch. Moa, c'est M-O-A, distribution.ch. Voilà, c'est le site de nos distributeurs.
Alors, Nicolas Vadimoff, merci. Béatrice Galpin et Marc-André Liman.